Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Nogues.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Dans le débat actuel sur le projet de loi Travail, je ne sais plus comment on dit, projet de loi El Khomri, projet de loi Travail, Maloi selon la ministre, eh bien ce projet de loi qui en tout cas agite bien la France, eh bien le Jobs Act italien de Matteo Renzi est entré en vigueur il y a un an, c'était début mars 2015. Et est-ce que cette réforme du marché du travail peut nous servir d'exemple en France? En tout cas, cette réforme, elle a créé un contrat du travail, un CDI nouveau à protection croissante. En fait, avec une période d'essai de 3 ans, en clair, l'employeur peut licencier un salarié dans les 3 premières années en échange d'une indemnité. Bonjour Mercedes Bresso.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée italienne du Parti démocrate, vous êtes économiste. Ça nous fait du bien d'avoir une économiste sur ce plateau, parce qu'on a souvent des gens sur le plateau qui ne savent pas de quoi ils parlent en matière d'économie. On en reviendra avec Jean Quatremer sur la question juste après. Vous êtes ancienne présidente de la région du Piémont, ancienne présidente du comité des régions. Est-ce que ce Jobs Act, c'est comme ça qu'il l'a appelé, il s'est inspiré un petit peu d'Obama, Matteo Renzi, est-ce que ce Jobs Act marche?
Écoutez, en ce moment, il marche malgré la crise. L'année passée, il a contribué à créer plus de 764 000 postes de travail permanents en plus.
On n'a pas les mêmes chiffres, on va y revenir, mais
764 000. Et juste l'année précédente, on avait eu un solde négatif de 52 000. Donc la différence est quand même sensible. N'oublions pas qu'il y a aussi des mesures fiscales qui vont avec. Donc c'est, disons, un système de flex security, parce que les mesures fiscales et aussi les modifications des lois concernant la protection des travailleurs sont allées, dans certains cas, on pourra en parler, ont été améliorées.
La fameuse flexi-sécurité.
Voilà, ça a été un peu mis en place et donc je crois que actuellement le bilan est positif, mais bon, ces choses-là, il faut des années pour qu'on puisse être sûr.
On va y revenir, on va voir, parce qu'il y a un petit peu de croissance en Italie de l'ordre de 0,6% du PIB. Alors est-ce que ces emplois, c'est grâce à la croissance ou est-ce que c'est grâce à la réforme du marché du travail? C'est le thème.
On parle d'emplois permanents, parce que sur le fait que ce soit seulement la croissance à créer des emplois, on est d'accord. Bon, absolument.
Bonjour Jean Quatremer, correspondant de Libération et puis économiste à 16 heures.
Économiste du dimanche, comme le présentateur, de cette émission d'ailleurs.
Très bien. Est-ce que l'Italie, c'est un modèle?
Il faut voir que l'Italie est partie d'extrêmement loin. C'était un marché du travail totalement figé, surprotégé, mais véritablement surprotégé, à côté duquel, par exemple, le marché français apparaît comme hyper libéral. On est quasiment américain. En Italie, pour licencier quelqu'un, c'était quasiment impossible et ça coûtait une fortune à l'employeur. Donc, non, c'est pas un modèle. En tous les cas, l'Italie montre qu'en assouplissant le marché du travail, ça peut créer de l'emploi.
Bonjour Charles de Marcy, directeur du bureau de la Fondation Robert Schuman ici à Bruxelles. C'est intéressant, Mercedes Bresso, de nous parler de la flexi-sécurité. C'est la fameuse flexi-sécurité si chère au patronat et les Italiens, ils l'ont mise en œuvre.
Ils le mettent en œuvre parce qu'ils cherchaient justement à essayer d'un peu désenclaver ce marché. Donc finalement, tout est possible parce qu'avec un taux de croissance très faible ou en tout cas très bas, on voit qu'il faut aller plus loin et il faut en fait essayer de réveiller un peu cette balle endormie, parce qu'autrement, il n'y aura pas de nouveaux emplois.
Bonjour Romain Cliva.
Bonjour.
Un petit nouveau autour de la table, Romain Cliva, correspondant radio pour la RTS, la radio-télévision suisse. C'est un vrai plaisir pour moi de vous avoir autour de la table, parce que vous êtes à la fois très proche de l'Union européenne, même intégré d'une certaine manière, dans certains domaines, mais extérieur à l'Union européenne. Donc vous avez un regard très intéressant sur cette chose qu'est l'Union européenne en tant que Suisse. Le code du travail, c'est une vache sacrée, à votre avis, dans certains pays européens?
Alors a priori, on peut le ressentir comme tel. Bon, on le voit en France, ça, dès qu'on y touche, tout d'un coup, c'est une boîte qu'on n'ose pas ouvrir. Mais Jean Quatremer l'a dit, c'est intéressant, parce que quand il y a une impulsion, quand un pays il veut changer, il peut. Et là, on voit que c'est, il y a le côté sacré, mais ça dépend aussi du vacher. Et quand le vacher veut changer, on voit avec, par exemple, Renzi qui a l'énergie, il peut changer. Margaret Thatcher, à l'époque, en Angleterre, avait pu le changer. François Hollande, manifestement, n'a plus tellement de bâtons et c'est plus difficile.
Voilà, petite note de coulisses. Juste avant l'émission, j'ai dit à Romain, qui est brillant sur les antennes de la RTS, je lui ai dit, n'hésite pas, toi, t'as un côté, t'es pas un fédéraliste européen, n'hésite pas à rentrer un petit peu dans Jean Quatremer, à lui porter la contradiction. Et puis, il commence sa première intervention en disant, comme l'a dit Jean Quatremer. Voilà, et puis, dans la revue de presse européenne tout à l'heure, d'Éric Scholl, de Courrier International, on verra comment la réforme du marché du travail en France est vue par les Britanniques, les Espagnols, les Allemands, les Italiens, et puis tiens, les Suisses aussi, Romain Clivat. Voilà, réforme du marché du travail, l'Italie est-elle un modèle? C'est le programme de 500 millions d'Européens aujourd'hui pour réagir sur Twitter, hashtag 500ME. Alors, le Jobs Act, qu'est-ce que c'est? Déjà, Jobs Act, c'est pas de l'italien, clairement. C'est été repris de la réforme de Barack Obama aux États-Unis. La réforme italienne, eh bien, en fait, elle a supprimé la possibilité de réintégration des salariés licenciés abusivement, sauf dans le cas des discriminations. Yes. Mais c'est à la personne licenciée d'apporter la preuve matérielle de cette discrimination. Et en cas de licenciement, le salarié a droit à une indemnité selon son ancienneté. Donc, ça va de 4 à 24 mois de salaire. Et en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'en Italie, il y a de plus en plus de CDD qui peuvent être enchaînés jusqu'à 5 fois de suite pendant 36 mois. Voilà. Ça. Et puis pour les chiffres, aujourd'hui, le chômage en Italie dépasse les 11% et il y a surtout beaucoup de chômage chez les jeunes, plus de 40% chez les moins de 35 ans. Ce Jobs Act, vous en êtes fier? Et est-ce que pour vous, c'est un modèle pour la France?
Écoutez, oui, on en est fier. Comme je vous l'ai dit, ce qui crée les jobs, c'est la croissance et les investissements surtout. Donc, l'objectif du Job Act était celui de réduire le nombre d'emplois à temps déterminé, qui était devenu vraiment un énorme problème pour les jeunes. Ils étaient embauchés seulement pour des temps qui devenaient de plus en plus courts. Et pousser avec des avantages fiscaux, avantages de réglementation, pousser vers des jobs à temps indéterminé. Ça, ce résultat a été obtenu grâce au mix de la loi, mais surtout grâce, c'est clair, à l'assouplissement des règles qui étaient plus dures et qui étaient devenues une sorte de totem pour les entrepreneurs. En réalité, personne n'était licencié et protégé par le fameux article 18, mais pour les entrepreneurs...
On va y revenir à ce point de blocage qu'est voilà. L'article 18, juste pour voir si ça marche, ce Jobs Act.
Quelques
chiffres. Selon les derniers chiffres de l'emploi, ce sont les chiffres de janvier qui, là, viennent d'être publiés début mars, il y a 300 000, 299 000, mais 300 000 personnes de plus ayant un emploi en un an. Donc sur 12 mois, c'est une hausse de 1,3%. Et le nombre de chômeurs, lui, s'est réduit de 170 000. Vous parliez des jeunes Mercedes Bresso, mais visiblement, quand on regarde, les emplois créés concernent surtout les plus de 50 ans.
Alors, donc, les données que vous avez sont les données globaux, donc les jobs créés en plus. Les 764 000, c'est les emplois à temps indéterminé, parce qu'il y a eu aussi une transformation d'emploi de temps déterminé à temps indéterminé. Ça, c'est un avantage. Je veux dire, un jeune ne peut pas prendre un prêt pour acheter une maison s'il a un job qui finit trois mois après. Donc, c'est clair qu'on est sur la voie de la reprise économique, mais on a encore beaucoup à faire. Alors, on doit faire beaucoup d'investissements et je pense que ça, c'est des politiques européennes. Nous, on travaille énormément ici pour relancer les investissements et faire que l'Italie, comme tous les autres, comme la France aussi, puisse repartir vraiment.
Charles de Marcy.
On est sur le début, en fait, d'une tendance, parce que le taux d'emploi est encore assez faible. On est encore en dessous des 70%, donc ce n'est pas super. D'ailleurs, la Commission le rappelle dans le cadre du semestre européen. Et donc, c'est vraiment le début et qui a aussi pour objectif de redonner un peu confiance aux entreprises et d'arrêter. C'est un peu d'ailleurs quelque part l'inspiration que la France essaie d'avoir, de donner un peu cette confiance pour casser ce rythme du CDD,
exact.
Que ce soit 1, 2, 3, voire plus. Alors en France, c'est limité, certains ont payé pour le savoir, mais d'essayer d'avoir davantage de CDI, même si à un moment, on simplifie aussi le fait que les gens puissent partir s'il y a une baisse d'activité.
Visiblement, il y a plus de CDI, mais les CDD ne chutent pas pour autant parce qu'il y a plus de CDD, parce qu'ils peuvent être enchaînés, comme je disais, 5 fois de suite. Donc visiblement, il y a quand même une libération de l'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Le véritable problème aussi à propos des CDD, c'est qu'on vous dit qu'un CDD, ça empêche effectivement d'avoir accès au crédit bancaire, d'avoir accès au logement, etc. Mais c'est pas le CDD qui est responsable de ça. Je veux dire qu'après tout, pourquoi pas avoir plusieurs CDD dans la vie? C'est pas quelque chose qui en soi est particulièrement choquant. Je veux dire, vous pouvez aussi avoir un CDI et être viré du jour au lendemain si la boîte va moins bien. Mais c'est simplement, c'est l'attitude des banques et le marché locatif. C'est-à-dire qu'on mélange tout. On fait porter sur le code du travail des problèmes qui ne sont pas liés directement au code du travail. Les banques ont la trouille. En Europe, une banque, par nature, elle a la trouille. Un propriétaire, il a la trouille de louer. Pourquoi il a la trouille de louer en Europe? Parce que tout simplement, virer quelqu'un, c'est très compliqué. Alors que, par exemple, au Canada, on avait les mêmes lois qu'en Europe et on a décidé de libéraliser, par exemple, le marché de l'emploi, du logement. Et quelqu'un qui ne payait pas son loyer est viré en 3 semaines au Canada. En 3 semaines. Donc maintenant, on prête sans garantie. On loue son appartement sans aucune garantie. Donc, faut faire attention. Moi, je trouve que d'ailleurs en France, le débat aujourd'hui a dérapé exactement dans le même domaine. C'est-à-dire qu'on dit ah ben c'est à cause des CDD que les jeunes n'ont pas accès à des tas de choses. Non, c'est à cause de différents secteurs et de rigidité dans tous les secteurs.
Donc, c'est les banques finalement. Je me tourne vers Romain Clivat, le Suisse de l'étape. Le problème, c'est les banques.
Suisse, hein. Ça, c'est vrai. Ça, bien sûr. Il y a plus de banques françaises en Suisse que de banques suisses. Hein.
Romain, en parler de ce que vous voulez, pas forcément des banques. Vouliez réagir à ce que disait Mercedes Bresso, Jean Quatremer ou Charles de Marcy?
Non, alors, j'ai une demi-fois encore, j'étais d'accord avec c'est la dernière. Non, sur cette question de se fixer sur le CDD, CDI, ce sont des termes, et en fait, j'ai l'impression qu'on rigidifie les esprits aussi en disant c'est parce que c'est un CDD, c'est dramatique.
Je suis d'accord avec lui, vous voyez.
Ce qui compte, c'est vraiment l'emploi, les jeunes, est-ce qu'ils ont un emploi ou pas?
Oui.
Et s'ils quittent un emploi, qu'ils reviennent vite dans le circuit. Et là, c'est intéressant de voir le système helvète où, effectivement, c'est très très souple, mais les gens restent peu de temps au chômage parce qu'ils retrouvent vite et gardent une employabilité, ils sortent pas du système. Et ça, c'est intéressant. Et juste par rapport aux questions européennes, je me permets tout de même de douter j'en suis là depuis bientôt une année et demie, j'entends parler
des... Vous êtes en poste à Bruxelles.
À Bruxelles, ouais. Donc, j'ai fait de la politique nationale avant et ces questions d'investissement européen avec le plan Juncker, tout ça. Instinctivement, je me méfie un peu de ce genre de grand plan. Je vois, il y a plein de critères, plein de schémas, il y a beaucoup de couleurs, ça a l'air très bien fait. Mais à la fin, est-ce que c'est pas vraiment trop loin de la réalité dans les investissements? Ça, c'est la question.
Mercedes Bresso, juste après un court message publicitaire, nous allons parler de ce fameux article 18 qui est le point de blocage en France. On sait ce que c'est les points de blocage quand il faut réformer le marché du travail. Ben, en Italie, vous en avez un fameux. On y revient avec Mercedes Bresso, Jean Quatremer, Charles de Marcy et Romain Clivat juste après la pause. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, en compagnie de Mercedes Bresso, eurodéputée italienne du PD, le Parti démocrate, Jean Quatremer, de Libération et du Bloc Coulisses de Bruxelles, Romain Clivat, de la RTS Suisse, un homme de radio, et Charles de Marcy, de la Fondation Robert Schuman. Ici à Bruxelles, nous parlons de l'Italie, de la réforme du marché du travail, parce qu'on sait que c'est compliqué, hein, la loi El Khomri en France. Donc du coup, on va regarder un petit peu, ce sera intéressant de regarder à l'occasion aussi ce qui se passe en Espagne. Là, aujourd'hui, on regarde en Italie avec ce Jobs Act de Matteo Renzi, dont il est si fier, c'est une réforme du marché du travail qui a introduit un CDI nouveau à protection croissante les 3 premières années. En gros, les employeurs peuvent, le business marche pas aussi bien qu'ils le souhaitaient, la personne qu'ils avaient employée, ils peuvent s'en séparer pendant 3 ans, juste en échange d'une indemnité. C'est donc, on libère un petit peu le code du travail. Parlons de ce point de blocage en Italie aujourd'hui, Mercedes Bresso. C'est l'article 18. Il date des années 70 et il oblige les entreprises de plus de 15 salariés, donc les PME, à réintégrer les travailleurs licenciés sans justification.
Voilà.
Cet article, il entretient une incertitude qui plombe un petit peu les embauches, parce que les patrons disent c'est bien, Matteo Renzi, votre réforme, mais l'article là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est tout de suite les intonations italiennes qui reprennent. Or, c'est un symbole de la gauche, cet article 18. Silvio Berlusconi, c'était il y a une quinzaine d'années, en 2002, il avait tenté d'y mettre fin, de le remettre en question. Il s'était retrouvé avec 2 millions de personnes dans la rue, dont toute la gauche, et c'est pour ça que ça pose un problème. Et aujourd'hui, ceux qui sont opposés à cette réforme du code du travail, et surtout au fait fait qu'on désingue l'article 18, c'est BP Grillo du mouvement 5 étoiles, la Ligue du Nord et la droite, de manière générale, qui y sont opposés. Voilà. Voilà, Mercedes Bressot, vous êtes dans un beau bazar.
Oui, non, parce que la loi a été approuvée, donc le problème n'existe plus. C'est toujours valable l'article 18 pour les licenciements discriminatoires, ce n'est plus valable pour les licenciements économiques. Et je crois que c'est juste, le licenciement économique est permis avec, comme vous dites, une indemnité croissante selon le temps que le travailleur est resté dans l'entreprise.
Sachant que Matteo Renzi, il a une assise électorale, populaire, assez confortable, parce que si je me souviens bien, aux dernières élections européennes de 2014, votre liste a fait presque
41%.
40,9%. Pour comprendre ce qui se passe en Italie, il faut comparer avec la France. En France, la réintégration des travailleurs licenciés ne concerne...
on est en train d'essayer de regarder l'Italie pour mieux comprendre la France. Donc si on commence à parler de la France pour mieux comprendre l'Italie...
L'article 18, c'est juste une hérésie dans le monde occidental. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est aussi simple que ça. En France, la réintégration des travailleurs ne concerne, licenciés abusivement, ne concerne que les travailleurs protégés, délégués syndicaux, délégués du personnel. Si vous êtes licencié abusivement, vous obtenez une indemnité. Mais évidemment, si on oblige le patron à reprendre le salarié qui l'a licencié, il y a sans doute une raison. Vous imaginez l'ambiance dans la société.
C'est l'ambiance qu'il y avait en Italie. Cet article 18, c'est un truc de dingue.
C'est quasiment stalinien. Ouais. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Et alors, c'est vrai qu'au départ, lorsqu'on lisait la presse française notamment, on avait l'impression que c'était une réforme ultra-libérale qui allait se mettre en place en Italie. Non, vous revenez dans les standards du monde
absolument
normal.
C'est tout.
Donc c'est pour ça que je fais la comparaison avec la France. Parce qu'encore une fois, l'Italie n'est pas en train de faire des réformes ultra-libérales. Elle revient aux standards européens.
Alors Charles, on parle, donc vous nous parliez, vous Madame Bressot, de 764 000 emplois.
764 000 emplois. Ce qui fait l'année passée moins 52 000. Donc la différence c'est 800 000 abondants.
D'accord, très bien. Les aides à l'embauche, parce qu'il faut parler de ça aussi. En Italie, en fait, donc il y a réforme du marché du travail, un assouplissement, la flexi-sécurité. Mais il y a eu aussi des mesures d'aide à l'embauche, 8 000 euros par contrat et par an de subvention à l'entreprise pendant 3 ans.
De baisse des charges, Yann Anthony, pas de subvention, de baisse des charges.
Pardon,
baisse des charges.
Non, on est dans une émission
baisse des charges
du front de gauche.
Très bien.
Disons-le clairement. Parler de subvention au lieu de baisse des charges, nous sommes à l'extrême gauche.
Facture pour l'État, 12 milliards d'euros. On n'a pas les moyens de faire ça en France ? Charles de Marcy.
Alors, j'ai pas pris ma calculatrice et je voyais que vous étiez très fort sur les chiffres. Moi, je crois que c'est une question de perception. C'est que, à un moment, si on veut donner beaucoup d'argent pour que tout le monde embauche, on va embaucher, il y aura des effets d'aubaine. Ça existe aussi en France, en Italie. Ce qui fait que, est-ce que ça va réellement remplir le carnet de commandes de l'entreprise qui va te permettre de pouvoir proposer peut-être au départ qu'un an de contrat, puis peut-être une deuxième année si ça marche, et puis après sur un CDI? Ça, c'est une autre question. Et donc, savoir comment est-ce qu'on fait au départ cette incitation, si ça coûte un peu moins cher parce qu'on est moins qualifié, parce qu'on sort des études, ou encore pire, on n'a pas d'études, je crois que c'est positif et que là, ça vaut la peine de mettre des moyens. Et que ce soit 5, 10 ou 12 milliards, si à la fin on a réussi à embaucher ces personnes qui après vont cotiser et contribuer, je pense que ce sera rentabilisé.
Ouais, surtout embaucher les jeunes. Hein. Vous disiez qu'on embauche ceux qui ont plus de 50 parce qu'ils ont des compétences. Donc les 3 ans servent pour les former.
Romain,
peut-être prendre un peu de hauteur, comme vous aimez les comparaisons avec la Suisse. Donc montons un petit peu et si on observe un peu ce qui surprend dans la discussion dans tous ces pays, quand même, c'est qu'on se bat à coups de milliards pour créer des emplois, comme si c'est le fait de mettre de l'argent public que ça allait créer des emplois. Vous évoquiez avant, Madame Bressot, l'importance de la croissance, et on a l'impression que c'est un peu le problème, c'est qu'il est généralisé dans toute la zone euro, tous les pays qui se sont mis ce carcan. Alors c'est le grand tabou, parce qu'on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière dans la zone euro. Mais c'est tout de même étonnant de voir l'œuvre est tellement inachevée qu'à la fin, tout le monde se bat pour des bouts de chandelle, pour quelques millions, pour telle mesure, telle réforme, et qu'à la fin, l'emploi ne se crée quasiment pas.
Juste question, comment on explique qu'en Italie, parce qu'on dit que ce n'est pas la panacée, il y a beaucoup de gens en France qui disent que ce n'est pas la panacée, cette loi de Renzi, et comment on explique qu'en Italie, le chômage baisse et pas en France ? Jean.
D'abord, en France, il a légèrement baissé. Il faut quand même pas exagérer. Il a légèrement baissé. Et d'ailleurs, votre question est intéressante parce qu'on dit, j'ai lu les critiques à l'égard, notamment françaises, portées contre la loi de Renzi. On dit, oui, mais le travail créé, c'est dû à la croissance italienne. 0,6. Alors qu'en France, nous-mêmes, nous avons 1 point de croissance et on ne crée pas d'emploi. Mais pourquoi on ne crée pas d'emploi en France? Moi, j'ai parlé avec pas mal de petits patrons de petites entreprises. C'est très intéressant. intéressant, c'est que les gens vous disent toujours la même chose, c'est qu'on n'embauche pas parce que on a peur de ne pas pouvoir licencier à bon compte si jamais, effectivement, l'activité économique ne redémarre pas. Ça. Et il y a un deuxième...
Le CDI n'a plus de valeur si les patrons ne l'utilisent plus.
Absolument. Ouais. Et alors, deuxième chose, aussi en France, qui est un problème, mais bon, moi, je vais le dire, je vais me faire insulter, hein, les gens sur Twitter vont mal réagir.
On peut avoir un roulement de tambour en régie pour...
Le SMIC, le salaire minimum, le fait un salaire minimum qui est décidé au niveau national, sans tenir compte de la réalité des différents situation. Aujourd'hui, si bien que quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui est embauché, par exemple, je sais pas, pour tenir un standard ou autre, effectivement, a un salaire garanti, qu'il soit dans la Creuse ou à Paris. C'est le même, hein, le même salaire garanti. Le problème, c'est que ça tire tous les autres salaires vers le bas. Et que parce que simplement, on n'augmente pas, parce qu'on doit payer un standardiste qui est dans la Creuse, le même prix qu'on payera, le même prix qu'on paiera le même standardiste à Paris. Le résultat, c'est que ça contraint les entreprises. Et c'est un problème monumental. Et ça, en France, là, je parle du SMIC. C'est pour ça que je dis roulement de tambour, vous avez raison. Parce qu'en France, le contrat de travail, on ne faut pas y toucher, mais alors le SMIC, n'en parlons même pas. Parce que le SMIC, c'est devenu alors la vache sacrée des vaches sacrées, sans se rendre compte que ça crée une trappe à salaire et que ça décourage les embauches, même à des salaires plus bas dans certaines régions qui ne pourraient le justifier.
Charles, je crois que la question, c'est la contrainte. Tout à l'heure, je ne me suis peut-être pas très bien exprimé, mais quand Charles, 5, 6 ou 7 000 euros de plus si vous prenez un jeune, c'est très bien. Mais si derrière les contraintes en contrepartie sont telles qu'après vous avez le sentiment que vous avez les mains liées, les 5, 6 000 euros, c'est pas suffisant. Même si c'était suffisant, après ça coûte trop cher sur l'addition de nombreux d'années. Et donc je crois que c'est plus une question de confiance, évidemment, de libérer un peu ces énergies. Après, comment est-ce qu'on le fait en pratique, je sais pas. Mais c'est ça, à mon avis, le mot-clé. C'est là où peut-être en France qu'on n'a pas répondu en fait cette équation, c'est comment on redonne cette confiance, même si on change des lois tous les 3, 4 ou 6 mois.
Oui, c'est ça. C'est, en fait, on n'a pas confiance dans nos sociétés. C'est peut-être moins vrai en Italie qu'en France, mais on n'a pas confiance dans l'entreprise. L'entreprise, au fond, est perçue globalement par l'opinion publique comme l'ennemi de l'emploi. C'est quand même incroyable, parce que l'entreprise, c'est l'emploi.
Voilà.
Mais quelque part, voilà, c'est pas bien. Donc il faut les contrôler, ces employeurs qui pensent qu'elles licencient.
Madame Bressot, alors, en fait, Jean Quatremer est un démagogue. Il sait qu'il est sur BFM Business.
Jean Quatremer est un
libéral.
Sur le
plan politique, en fait, pour la contrepartie, pour faire accepter cette réforme, Matteo Renzi s'est engagé à créer une agence pour l'emploi public. C'est intéressant. Donc en Italie, il n'y a pas d'agence pour l'emploi public.
Oui, non, en réalité, il y avait des agences sur base provinciale publique.
D'accord.
Donc,
il en fallait une nationale.
C'est l'idée de le faire national.
Et il s'est engagé à renforcer les indemnités de chômage.
Tout à fait.
Il a fait les deux.
En réalité, la loi est complexe. Elle contient beaucoup de choses. Elle contient une modification du système, donc les tutelles aussi pour les emplois à temps déterminé. Elle contient une réforme des politiques actives du travail pour avoir plus de flexibility. Et donc, elle a intégré la garantie jeune. Donc, elle a travaillé sur l'ensemble des contraintes. Mais il y a quand même aussi des contreparties positives. Oui. Plus de tutelle, nous on a une énorme quantité de travail à temps déterminé parce qu'on a énormément de petites entreprises qui ont besoin de travail très très flexible. Donc il y a aussi des tutelles pour ce type d'emploi. Donc je crois que c'est l'ensemble des mesures que Renzi a pris qui sont en train de créer, de relancer un peu la croissance et de relancer l'emploi. Mais je suis d'accord avec M. Clivat, nous on a besoin dans la zone euro, d'un budget de la zone euro, un budget d'investissement, relancer les investissements, puisque les États ne peuvent pas, c'est l'Union européenne qui doit, la zone euro qui doit faire les investissements. Ça, je crois pas, il y a d'autres solutions.
Romain, par rapport à l'Italie, c'est presque une question pour Mme Bressot, je me demandais, mais entendre parler d'une agence publique de l'emploi, on peut se demander si dans ce domaine-là, Small is Beautiful, c'est pas le mieux, c'est-à-dire cette proximité, plutôt que de recréer une autre, de mettre une autre couche.
Ouais, ouais.
Est-ce que
si
là,
vous
vraiment
me demandez, moi je ne suis pas favorable à une nationale. Qu'il y ait, disons,
c'est pour ça qu'elle n'a toujours pas été créée d'ailleurs, visiblement, parce qu'il s'y est engagé, c'était il y a un an, mais elle n'a toujours pas été créée.
Oui, elle a été créée, mais elle ne travaille pas encore.
D'accord.
Mais bon, c'est
la chance pour l'emploi ne travaille pas encore.
Voyez,
d'accord.
Dans les réformes, il a aboli les provinces. Le problème, c'est que les agences étaient sur base provinciale.
L'agence pour l'emploi fictif, c'était le mot de la fin. de cette première demi-heure de Romain Clivat. Merci beaucoup, Mercedes Bresso. Vous parlez un français remarquable. Merci, merci beaucoup d'être venu dans 500 millions aussi, d'Européens aujourd'hui. Il est, oui, mon italien, moi, n'est pas tout à fait à la hauteur. Jean, Romain, Charles, vous restez avec nous parce qu'on va être rejoint par la pétillante Maya de la Baume de Politico qui va nous parler, qui va revenir d'ailleurs sur les élections en Allemagne, une gifle pour Angela Merkel avec cette percée des partis de l'AFD. Eh ben, Jean n'est pas d'accord avec la gifle, on va pouvoir en discuter. Et puis surtout, Éric Scholl va revenir dans sa revue de presse sur la façon dont les réformes du marché du travail en France sont vues par les Britanniques, les Espagnols, les Allemands, les Italiens et les Suisses. À tout de suite après le journal.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens ici au Parlement européen de Bruxelles. Maya de la Baume nous a rejoint. Bonjour Maya.
Oui,
de Politico, la référence, la nouvelle référence ici à Bruxelles sur les questions européennes, bien loin devant le bloc de Bruxelles de Jean Quatremer qui est toujours avec nous.
Je vous laisse, hein. Alors on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir à tous.
Non, non, en français, vous restez la référence. C'est dommage qu'il y ait moins en moins de gens qui parlent français. Charles de Massy, de la Fondation Robert Schuman.
On le voit en vous entendant.
C'est vrai. Charles de Massy est avec nous de la Fondation Robert Schuman. Et Romain Clivat de la RTS, la radio-télévision suisse. Alors, avec vous, Maya, nous allons revenir sur cette enquête de Politico sur comment l'ICR, c'est le parti des conservateurs et réformateurs européens de David Cameron. En gros, les conservateurs britanniques, mais ils en ont d'autres, hein, des pays de l'Est avec eux. Et ils ont réussi à virer, entre guillemets, les encombrants députés de l'extrême droite allemande, AfD, Alternative für Deutschland. C'était particulièrement intéressant d'en parler avec vous après les élections de dimanche dernier, les élections régionales, où Angela Merkel s'est pris une claque. Et on va y revenir parce que Jean Quatremer n'est pas du tout d'accord avec ce constat. Et puis Éric Scholl, le directeur de la rédaction de Courrier International, sera également avec nous tout à l'heure. Nous allons revenir sur le débat autour de la réforme du marché du travail, la fameuse loi El Khomri en France. Et bien ce débat vu par nos amis les Grands-Bretons, vu par les Espagnols, vu par les Allemands, les Italiens et les Suisses. Voilà, demandez le programme de 500 millions d'Européens la deuxième demi-heure pour réagir. Hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrer dans les coulisses de l'Europe.
Alors Maya, racontez-nous comment le parti ICR, les conservateurs et réformateurs européens, ont éjecté, en gros, deux brebis galeuses de l'AFD Alternative für Deutschland quelques jours avant les élections en Allemagne.
Oui, c'est la dernière petite aventure du Parlement européen. Donc l'ICR, qui est le groupe de Cameron au Parlement européen, a mis à la porte deux députés allemands de l'AFD, qui sont, on pourrait dire, peut-être un peu l'équivalent allemand d'un Front National.
Alors j'ai leur nom, Béatrix von Storch et Markus Pretzel.
La raison de cette éviction, c'est que Béatrix von Storch, donc une des députées de l'AFD, a fait une déclaration un peu choquante il y a quelques jours en disant qu'il fallait absolument que les policiers utilisent des armes contre les migrants, femmes et enfants. Ce qui a fait que le ICR a décidé qu'il fallait absolument les mettre à la porte et leur ont donné d'ailleurs une deadline, ils ont jusqu'au 30 mars pour s'en aller. Et alors eux, ces deux députés ont dit non, absolument, on ne voit pas ce qu'on a fait de mal, donc ils veulent absolument rester. Donc c'est en train de créer tout un, voilà, tout un bordel, comme on pourrait le dire. Mais en fait, ça pourrait sembler anecdotique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu, il y a eu des élections régionales en Allemagne, que l'AFD n'a pas véritablement donné une claque à Merkel, mais a fait des gains assez significatifs ces dernières semaines. Et du coup, derrière cette éviction, il y a un peu voilà, l'AFD qui maintenant se prend un peu, voilà, se sent encouragé.
D'accord. Du coup, mais sachant, est-ce que il dénonçait une manœuvre politique en gros, en disant clairement il y a eu un accord entre Cameron et Merkel et que c'est intervenu cette éviction juste avant les élections en Allemagne, sachant que cette sortie sur un peu choquante, comme vous dites, ça remontait quand même à il y a quelques semaines, voire quelques mois. Et donc, du coup, en revanche, l'éviction Et la décision, elle est intervenue 5 jours avant le scrutin en Allemagne. Donc, il y avait le sentiment que, parce que Angela Merkel a pu rendre service à David Cameron dans ses négociations sur le Brexit, c'était un retour d'ascenseur.
Oui, elle lui aurait demandé de se débarrasser du coup de l'AFD dans son groupe au Parlement européen. Mais ça, c'est Béatrix von Storch qui le dit. Donc, moi, je pense que c'est aussi parce que il y a une sorte de théorie du complot derrière tout ça.
Jean, théorie du complot derrière tout ça?
Non, ça, j'en sais strictement rien. Non, mais en revanche, s'il y a un complot, un accord ou autre, mais c'est vrai que l'intérêt de David Cameron, c'est de pas se retrouver sur les mêmes bancs que l'équivalent du Front National allemand. C'est évident. Dans le cadre surtout de la campagne référendaire du mois de juin, ça fait désordre. Même
sachant qu'avant, au tout début, l'AFD avait des airs de respectabilité parce que c'était des professeurs d'université et c'était basé sur l'euro. Et l'AFD a durci son discours sur l'immigration.
Ils ont laissé tomber l'euro parce que ça se vendait pas. La sortie de l'Union européenne et l'euro, ça se vendait pas des masses. Et ils sont passés à un discours anti-immigré qui aujourd'hui est extrêmement porteur. Aujourd'hui, être anti-musulman, anti-arabe, anti-tout, ça paye partout, hein, dans tous nos pays. Moi, je voudrais revenir sur votre analyse de la claque à propos de ce qu'a subi Angela Merkel. Je vous trouve assez présomptueux de parler de claque, parce que quand même, en l'espace de 8 mois, l'Allemagne accueille plus d'un million, 1,2 million de réfugiés, et l'AFD, effectivement, dans 3 élections régionales, fait à peu près la moitié des scores que fait le Front National en France, où nous n'avons pas eu un immigré supplémentaire. Par ailleurs, est-ce que c'est un désaveu que subit la chancelière dans sa politique? Je suis pas sûr, parce que par exemple, dans un des Landes, je crois celui du Baden-Württemberg ou je ne sais plus lequel, les Verts, qui ont une politique encore plus ouverte, ont fait 31, le Baden-Württemberg, voilà, 31% des voix. Le nouveau FDP, le Parti libéral, qui maintenant a quitté son orientation précédente, qui était anti-européenne et effectivement très conservatrice et devenue plus ouverte, eh ben, le Parti libéral, de même, retrouve des scores plus...
Angela Merkel, elle, vous le savez bien, sa peur, son angoisse, c'est de voir l'émergence d'une vraie extrême droite en Allemagne. Et elle a toujours dit, elle a dit à plusieurs occasions, que ce soit en on-off ou autre, elle a dit, je me battrai toujours contre ça. Et donc c'est dans ce sens que c'est quand même un revers important. Je suis en train de passer en Defcon 1, donc je passe de claque à revers, mais c'est quand même un revers important pour elle.
Il ne faut pas oublier que dans l'histoire allemande, des 30 dernières années, il y a déjà eu des poussées d'extrême droite. Vous avez oublié les républiques. Pas à ce niveau, mais quand même, on était à 9%. Hein. Donc, les républicaineurs ont atteint 9%, notamment au moment de la guerre en Yougoslavie, quand l'Allemagne a accueilli 900 000 Bosniaques. Et à ce moment-là, on a vu une poussée qui a duré 2-3 ans. Donc, on ne sait pas encore. Alors, c'est vrai.
C'est mécanique à chaque fois. En gros, c'est ça qui est intéressant aussi.
C'est assez mécanique. Et combien de temps est-ce que ça va durer? Alors, peut-être que cette fois-ci, effectivement, vous avez raison. Ça va peut-être s'installer durablement dans le paysage allemand. Mais les précédents tendent plutôt à prouver que ça a tendance à se résorber.
Vous avez raison, Dixit, Jean Quatremer. Romain Clivat.
Moi, j'accepterais le terme de claque. Je serais d'accord avec Anthony, parce que. C'est une lecture un peu marxiste de Jean Quatremer, avec des constantes historiques qui ne changeraient pas trop, il y aura un sens de l'histoire. Il n'empêche qu'il faut comparer ces élections avec les élections précédentes. On compare les élections entre elles, on compare pas un pays avec un autre. Et là, honnêtement, pour avoir un parti comme l'AFD à plus de 20%, autour des 15%, oui, c'est un séisme. Et ça vient pas du ciel. Et c'est peut-être pas qu'une poussée d'urticaire. On peut parler de claque parce que, entre les deux élections, oui, il y a eu des gros changements.
Et elle donc a pas... 30% pour les Verts, vous appelez ça comment? Alors vous, une claque aussi?
Non, ça reste là. Mais les Verts, c'est pas Angela Merkel.
Non, mais...
C'est Kretschmann. Attention, c'est pas elle.
Oui, mais c'est néanmoins
le parti d'Angela Merkel.
N'est pas désavoué. Non, mais
ça, c'est une manière, c'est très environnement bruxellois, qui est de sanctifier Angela Merkel par rapport à ce qu'elle a fait sur les migrants, et donc on la défend systématiquement. Donc maintenant, ici, on dit toujours, c'est pas vraiment une claque pour elle. Parce qu'on a l'impression que quand on attaque Angela Merkel, on attaque la politique européenne. Il n'empêche qu'en comparant les scrutins, on le voit, il y a une différence, et elle a perdu.
Direction maintenant Paris, avec le grand directeur de Courrier International. C'était que je dévore tous les week-ends. C'est parti pour la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann Anthony.
Comment allez-vous?
Très bien.
Patron de la rédaction de Courrier International. Alors, vous nous avez entendu tout à l'heure en début d'émission parler de la loi, non pas de la loi El Khomri, de la loi Renzi, le Jobs Act italien. Pour certains, un modèle à suivre. Pour d'autres, pas tellement. Parlons des réformes en France vues par nos amis européens. D'abord, les Grands Bretons dans la presse britannique. Hollande à l'assaut de la vache sacrée, le Code du travail.
Oui, c'est l'Indépendant qui titre ça, qui parle de ce projet de loi qui s'attaque à l'intouchable. Vous savez, le gouvernement, là je cite le journal, le gouvernement le plus impopulaire de ces dernières années essaye de tuer la vache économique et sociale la plus sacrée du pays. Alors, on sent quand même un peu de moquerie, une certaine incrédulité, et puis aussi ce côté, pourquoi pas, après tout, c'est la presse britannique qui est là-dessus, pourquoi pas, est-ce que, au fond, s'il y arrive, tout en étant extrêmement, et dès le départ, très réaliste, ça pourrait mener, je cite l'Indépendant, à des résultats potentiellement explosifs, et puis ce constat, comme toujours en France, tout le monde est pour le changement, mais la majorité s'oppose au changement. Vous voyez donc beaucoup ce un doute important et finalement qui se réalise de jour en jour en France, on l'a vu cette semaine.
En Espagne, on parle dans la Vanguardia de l'immobilisme et de la bureaucratie française.
Alors là, je veux dire que le constat fait assez mal parce que plutôt que de s'interroger sur ce projet de loi, s'il va passer ou pas, eh bien, l'Avant-Gardien, elle, s'est intéressée à ce qui se passe notamment à Londres. Et là, je vous cite le journal espagnol de Barcelone, c'est un signe. Si plus de 350 000 Français résident à Londres, personne n'y va pour le climat ou pour le fish and chips. D'après les témoignages, ils sont séduits par la flexibilité du travail et les opportunités de la capitale britannique, à la différence de l'immobilisme et de la bureaucratie française. Voilà, c'est signé l'Avant-Gardien.
Jean Quatremer.
Mais c'est une évidence qu'il y a un problème en France quand on voit le nombre de Français vivant à l'étranger. On est passé d'un million dans les années 90 à plus de 2 millions et demi aujourd'hui, parce que beaucoup de Français ne se déclarent pas non plus une fois qu'ils sont à l'étranger. C'est vrai que vous allez à Londres aujourd'hui, c'est hyper dur à Londres de parler anglais. C'est-à-dire que tout le monde vous parle français dans les magasins, dans les restaurants. Oui, parce que c'est moi, je dois dire. Exactement.
Dès qu'il commence, ouais,
c'est French is beautiful. Ça, c'est clair.
Hello,
et net.
Do you have Ah bonjour, vous êtes français.
Voilà, c'est incroyable. Comment est-ce possible? Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant, on voit beaucoup de gens qui partent à l'étranger parce que c'est plus facile de trouver un emploi, c'est plus facile de développer des projets personnels qu'en France aujourd'hui. Et il y a surtout un rapport français à la réussite qui est souvent assez désagréable. Moi, j'ai quelques amis qui ont réussi avec leur start-up. C'est vrai que la réussite en France, c'est pas bien.
Vous Alors que vous, tout le monde vous aime bien finalement.
Oui, mais quelque part, le salariat et le fonctionnariat en France, c'est super bien. Mais le fait de faire sa start-up et de gagner un maximum d'argent, quand même, il y a un truc qui n'est pas normal dans notre pays.
Maya ?
Mais moi, je trouve que c'est un peu simpliste, ce côté toujours, la bureaucratie française. Enfin, je ne sais pas si ça... Que la Vanguardia s'exprime là-dessus. Alors bon, ok, ça a toujours été très répétitif. Ah, la France est un pays de bureaucratie. Alors du coup, les gens s'en vont parce qu'il y a trop de bureaucratie en France. Moi, je sais pas. Ça me semble très usé, très surusé, ce genre d'argument. Alors,
sur la bureaucratie, vous avez mille fois raison. D'autant plus que ces gens qui parlent de la bureaucratie ne se sont jamais manifestement heurtés à la bureaucratie britannique ou la bureaucratie américaine, parce que
ou espagnole.
Ou espagnole. Voilà.
Ils ont rempli des formulaires dans ces pays-là.
La question n'est pas celle de la bureaucratie, c'est celle du rapport à la réussite. Et au fait, j'irai à la façon dont l'État laisse les énergies se développer. C'est-à-dire que vous ne faites pas non plus immédiatement assommé par des impôts, par voilà, c'est aussi simple que ça.
Mais juste pour nuancer ce que disait Maya, c'est pas parce que l'argument paraît usé que la réalité a changé.
C'est ça. Direction, voilà, le problème, c'est ça.
Direction la Suisse maintenant, toujours avec vous, Éric Scholl, où le temps parle.
Le temps va apporter de l'eau au moulin de ce que vient de nous expliquer Maya, puisque le journal Le Temps, effectivement, explique que finalement la France n'est pas aussi frileuse qu'on le dit. Et le journal est parti à la recherche de ces nombreux Français déjà sortis du cadre traditionnel pour redonner de l'oxygène à l'économie. Et il nous explique qu'il est grand temps de reconnaître que de très nombreux Français n'ont pas peur des réformes. Et là, je cite le journal, « La France, poussée par sa vitalité démographique, change plus vite que ses élites et ses partenaires sociaux. Chaque brèche ouverte dans le carcan réglementaire est exploitée. » Voilà, c'est une façon un peu positive de regarder notre pays.
Ils sont positifs, les Suisses. Ouais, Romain Clivat.
On parle plus rapidement que ça. Mais non, mais évidemment, je l'ai lu cet article de nos collègues du Temps. Effectivement, on a un peu cherché les bonnes nouvelles dans cet article. C'est vrai qu'il y a de la vitalité. Qui doute que les Français soient créatifs et entreprenants? Quand on connaît la France, on n'a pas de doute là-dessus. Après, les élites...
Entreprenants ou entrepreneurs?
Peut-être les deux.
D'accord.
Entreprenant, entreprenante, entrepreneur, c'est ouais. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est peut-être ça l'impression. C'est oui, il y a peut-être des gens qui bougent, mais bon, les élites, elles sont ce qu'elles sont. C'est quand même, on a les élites qu'on mérite dans les démocraties. Les politiciens ne viennent pas du ciel, les bureaucrates ne viennent pas du ciel. C'est un système qui s'est nourri. Et là, on a quand même l'impression, pour utiliser une image un peu musicale, que les politiciens français, c'est un peu du Michael Jackson, c'est du moonwalk. On a l'impression qu'ils avancent, mais en fait, ils reculent, mais ils bougent beaucoup. Et en fait, c'est ce qu'on voit dans cette loi El Khomri. On a l'impression qu'ils sont arrivés avec un projet, ils l'ont tapé le dimanche, là j'ai vu que apparemment ils ont fait ça le week-end, je sais pas, au brunch peut-être, et ça paraît pas très sérieux.
Alors que le travail le dimanche, ça a été un débat hein, en France. Vu d'Allemagne, Éric Scholl, on parle d'une révolte bien française.
C'est ça, c'est que vu d'Allemagne, en tout cas vu, j'allais dire, vu d'un journal particulier, c'est la Tageszeitung, donc un journal plutôt à gauche, qui apporte un point de vue intéressant, d'abord pour expliquer qu'en France, les réformes ne passent pas, l'Europe entière le déplore, nous explique le journaliste. Mais au fond, il nous explique que, avec ce projet de loi, les salariés se retrouveront à la merci des chefs d'entreprise. Au lieu de renforcer le dialogue entre partenaires sociaux, cette réforme affaiblit les syndicats, nous explique la Tageszeitung. Et puis, et là, c'est un élément peut-être important dans ce débat, c'est qu'en comparaison, notamment avec l'Allemagne, voilà ce qu'il nous dit, à ne miser que sur le rapport de force, on ne peut s'étonner de voir surgir la révolte. Celle-ci fait partie de la culture politique française. Évidemment, là, on est très loin du mode de gestion en Allemagne.
Charles, quand on regarde les documents de la Commission européenne et leur analyse justement sur le marché du travail et les différentes réformes à faire, à chaque fois, ils expliquent que les dernières réformes ont finalement eu des effets qui étaient très limités. Et pratiquement à chaque demi-ligne, il y a écrit « effet très limité, très limité, très limité ». Et donc on a des débats de fond pour des réformettes, en fait, et c'est un peu ce qui pose problème. On est les champions du monde du constat, mais sur la mise en œuvre, on a un peu du mal.
Direction l'Italie, on en a beaucoup parlé dans la première demi-heure, et dans la Repubblica, l'emploi repart, mais plus grâce aux incitations fiscales qu'à la loi emploi en France, selon nos amis de la péninsule.
Oui, et selon en fait des chercheurs de la Banque d'Italie qui ont fait une étude assez poussée, alors sur juste une province, la Sardaigne-Vénétie, mais au fond ils ont extrapolé l'ensemble d'Italie, ils sont intéressés au Job Act, ils ont regardé comment cette loi, cette réforme donc de Matteo Renzi a ou pas créé des emplois. Et leur conclusion est assez un peu cruelle en fait pour ce plan emploi, puisqu'ils expliquent que les effets positifs sont principalement liés donc à ces incitations fiscales plutôt que la loi sur l'emploi. Et ils constatent que la loi sur l'emploi a contribué à créer seulement 1% des nouveaux emplois. Bon, voilà. Alors c'est peut-être un peu dur, mais ça montre qu'il y a aussi des effets d'aubaine, comme partout, lorsqu'on fait une nouvelle loi avec des incitations fiscales.
Ah d'accord, donc c'est la loi italienne, grâce à vous, Éric Scholl. On a bouclé la boucle, c'est ce fameux Jobs Act dont on parlait en début d'émission. Donc finalement, juste Romain, Charles, Jean et Maya, juste en un mot. Oui, c'est un modèle d'Italie ou pas, Charles?
C'est une partie du modèle parce que ça demande de changer et je trouve que ça change les comportements.
D'accord, Romain?
Je dirais que comme je crois plus aux hommes quand des structures, disons que oui, c'est peut-être un modèle parce qu'il y a un Premier ministre qui a une vraie énergie et qui arrive à changer les choses manifestement.
Ah, d'accord, bon, Jean?
Là, je suis d'accord avec mon collègue suisse, c'est-à-dire que il faut avoir des politiciens qui ont du courage, mais aussi qui ont une légitimité. Le problème en France, c'est que nos politiciens n'ont ni courage, parce que d'ailleurs ils viennent de reculer déjà sur cette loi sur le travail, mais ni légitimité non plus. Pourquoi? Parce que ce sont tous des fonctionnaires qui vont réglementer le marché du travail privé.
Et on en revient à la bureaucratie, Maya.
Non, moi je dis l'Italie, c'est un modèle pour nous tous.
D'accord.
Sans aucune hésitation.
Forza Italia, pas le parti politique, pas le parti politique, hein, a priori, mais plutôt l'esprit. On va parler de la Squadra Azzurra. Très bien, merci beaucoup Maya de la Baume de Politico. Merci Éric Scholl de Courrier International pour votre revue de presse européenne. Merci Jean Quatremer de Libération. Merci Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman. Merci Romain Clivat pour cette première remarquable et remarquée. Vous êtes de la RTS, la radio-télévision suisse. Vous êtes un homme de radio, mais avec un physique de télé. et une plume de presse écrite. En tout cas, merci à toutes les équipes du Parlement européen qui ont réalisé cette émission, ce magnifique studio ici à Bruxelles. Merci à Alexandre Rougier qui a préparé cette émission avec brio. Quant à nous, on se retrouve, ils étaient deux donc, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Toujours ici, hein, même jour, même heure. Vous nous retrouvez ici, on est fidèles au rendez-vous. Mais d'ici là, restez à l'écoute de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.